que la miséricorde s'épanouit seulement en éthique religieuse. Alors on avait posé la question de l'amitié. La question du pardon. Puisque la miséricorde s'épanouit pleinement dans le pardon. Et il me semblait, et je reste sur la même position, je n'ai pas évolué depuis, il me semblait que c'était propre à l'éthique religieuse de permettre à la miséricorde, c'est-à-dire aux actes, n'oublions jamais ce que nous essayons de faire, c'est, il y a des actes de miséricorde qui peuvent exister, mais pas d'actes parfaits qui engendrent la vertu. Il faut des actes parfaits pour engendrer la vertu. Et c'est pour ça que je parle de vertu. Parce qu'il y a des actes de miséricorde, c'est bien évident, en dehors de l'éthique religieuse, mais pas d'actes parfaits. Et c'est peut-être là la question qui avait un peu en suspens à propos de l'ami, dans l'ordre de l'amitié. Vous voyez, l'amitié n'implique pas la miséricorde. Ça, j'ai beaucoup réfléchi. L'amitié n'implique pas la miséricorde. C'est deux choses très différentes. L'ami, on l'aime comme un ami, et il y a réciprocité dans l'ordre de l'amitié. Et on est respectueux. L'amitié implique le respect. L'amitié implique la justice. Parce que la justice implique le point de vue du respect. Mais l'amitié n'implique pas de soi la miséricorde. Et c'est, je crois, le caractère propre, alors, d'une amitié dans un climat d'éthique religieuse, de pouvoir permettre un acte parfait de miséricorde. Vous voyez, dans l'amitié, on oubliera. C'est bien évident, je ne tiens plus compte de ça. Bien évident, tu as fait ça par maladresse, par bêtise. Mais je ne tiens pas compte. C'est pas le pardon. C'est plutôt l'ordre de l'oubli. Ou de l'ordre de l'excuse. Je t'excuse. Excuser quelqu'un par sa maladresse. Mais quelqu'un qui fonce à travers une porte, on l'excuse. C'est pas un acte de miséricorde. On dit, je comprends. Vous êtes pressé. Vous êtes pressé. Alors, c'est une excuse. C'est pas un acte de miséricorde. C'est partie de ces choses-là, vous voyez. Mais c'est pas au sens strict la miséricorde. La miséricorde, c'est quand on est en face. Or ça, dans l'ordre de l'amitié, ça existe constamment. On voit des maladresses en fonction du tempérament. Alors on dit, bon, c'est très bien. Tu ne pédales pas de la même vitesse que moi. C'est normal. N'est-ce pas ? Alors, on excuse. On oublie. L'amitié fait oublier. Ça, c'est sûr. Parce qu'elle polarise tout notre effort d'amour vis-à-vis de celui qu'on aime. Alors par le fait même, on oublie. Mais je ne crois pas qu'on puisse dire qu'il y ait un acte parfait de miséricorde au niveau purement d'une morale humaine. Oui.
Ça veut dire que la miséricorde dans l'ordre religieux est dans le prolongement de la justice ou de l'amitié.
Dans le prolongement de la justice, justement. Et dans le prolongement du sens de l'humilité. Peut-on être miséricordieux sans humilité ? Sans voir, voyez, que, au fond, nous avons nous-mêmes les mêmes fragilités. On ne peut pas être miséricordieux autrement. Et ce n'est pas dans l'ordre de l'amitié. Alors, ce sera justement le propre de l'éthique chrétienne de mettre la miséricorde dans le prolongement du mystère de la charité fraternelle, mais pas au niveau humain, non. C'est pour ça que je disais tout de suite, l'amitié n'implique pas la miséricorde. Ça n'implique pas. C'est deux choses différentes. C'est excuser, dans le sens de excuser, mais on excuse. Mais le pardon qui relève de l'acte de miséricorde, c'est très différent. Le pardon, c'est saisir vraiment dans l'autre une misère qu'on pardonne parce que, de fait, on a soi-même le sens de cette misère, ou le sens de la fragilité qu'on peut avoir. Parce que Jésus, quand il pardonnait, n'avait pas le sens de sa misère, mais il sentait la misère de l'homme. Et la capacité qu'il y avait dans l'homme de toutes ses fragilités. Et alors, sentant la précarité dans l'homme, il et le grand amour. Là, ça, c'est une question très délicate de savoir si la miséricorde est dans la ligne de la justice ou dans la ligne de la misère. C'est un peu les deux. Vous voyez, au fond, enfin, humainement parlant, vous avez le fondement de toute amitié, c'est la justice. L'amour d'amitié est au-delà de la justice, mais n'exclut pas la justice. Alors, la miséricorde, je ne peux pas dire qu'elle est uniquement dans le regard de l'amour d'amitié, je peux pas dire uniquement qu'elle est dans l'ordre de la justice. Alors, est-ce qu'elle n'est pas le lien entre les deux, vous voyez? Pour pouvoir faire miséricorde, il faut un très grand amour, je crois. On fait la miséricorde par une surabondance d'amour. Et une surabondance d'amour ayant le sens de la blessure, le sens de la fragilité, le sens du péché. Alors on pardonne. Oui.
C'est ce qu'il y a d'ultime dans la justice au niveau
religieux. Oui, tout à fait. Étant donné que vous voyez, la justice se prolonge en adoration, la justice à l'égard de Dieu. Et la justice à l'égard du prochain, de l'homme. La miséricorde. Ça, je crois très, très bien qu'on peut dire les deux. Et tout ça, commandé par le conduit de la création. C'est le sens de la création qui me permet d'adorer. C'est le sens de la création, savoir qu'on a affaire à une créature. Mais quand il est dit dans l'Écriture, omnis homo mundus, tout homme, aussi bien l'homme que la femme, est menteur. Tout homme est menteur. Bon, omnis homo mundus. Ça relève de quoi? Je crois que ça relève d'une éthique religieuse. Et là, c'est ça qui ferait justement le sens de la miséricorde. Tout homme est menteur. La fragilité de la création. La fragilité de la créature fait qu'on lui pardonne. Parce qu'elle n'est qu'une créature. Donc, je ne peux pas avoir une crainte. Quand Jésus répond que celui qui est sans péché jette la première pierre. Oui. Au fond, seul celui qui est innocent peut exercer la justice implacable. La justice de la loi. Que celui qui est sans péché jette la première pierre. Toujours la même chose. Hein. Et ça, c'est l'éthique religieuse. Pas au sens strict, l'éthique chrétienne. L'éthique chrétienne, ce sera le geste du Christ, d'abord, là, le pardon de Jésus. Mais au fond, autrement, c'est l'éthique religieuse comme telle. Et il fait appel aux gens à l'éthique religieuse. Et quand il leur dit que celui qui est sans péché est la première pierre, il fait appel à leur sens religieux. Parce que le sens religieux fait que nous comprenons que dans la créature, il y a une fragilité très grande. Et cette fragilité qu'on a en soi, qu'on sent en soi, on la découvre dans les autres, ce qui fait qu'au-delà de la justice, on fait miséricorde. Vous voyez, on suspend la justice en quelque sorte. La justice ne va pas s'appliquer. On la suspend et alors à ce moment-là, dit, allez, va, il ne pêche plus. Mais, alors on pardonne de cette manière-là. On ne veut pas imputer quelqu'un vis-à-vis de sa faute parce qu'on sait sa fragilité. Et alors, évidemment, il y a un amour aussi, dans l'amour d'amitié. L'amour d'amitié, l'amour arrivera qu'on pardonne plus facilement, mais le pardon d'une façon générale et la miséricorde à l'égard de tous provient d'un sens plus aigu, d'un nouvel amour. Au niveau purement éthique humaine, il y a une philanthropie. Au niveau éthique religieux, c'est plus qu'une philanthropie. Parce que nous avons tous le même Père. Et parce que nous avons tous le même Père, nous nous aimons les uns les autres dans la lumière du Père. Nous sommes créés à l'image de Dieu. Vous voyez ? Alors il y a plus que la philanthropie. La philanthropie, c'est ce qui fonde profondément l'éthique, qui fonde la justice. Et donc l'éthique humaine, dans l'éthique religieuse, il y a un amour déjà un peu fraternel vis-à-vis de tous les hommes. Tous les hommes ont le même Père. Et donc sont aimés d'un même amour. corps. Dieu fait luire son soleil sur les bons et les méchants. Et donc nous devons avoir vis-à-vis de Dieu sa sceptique religieuse, tout à fait. Mais il y aurait beaucoup de choses à regarder dans les livres sapientiaux comme éthique religieuse. Et dans l'éthique religieuse, je sais, dans les livres sapientiaux, on trouverait énormément de notes particulières qui relèvent d'une éthique religieuse. Honorer ses parents. C'est, alors là, c'est à l'intérieur de la famille. Nous ne regardons pas directement ça maintenant. Nous regardons uniquement le point de vue, parce que ce serait déjà le point de vue politique. Mais ce serait intéressant de relever dans les livres sapientiaux toutes les notes qui sont des notes de l'éthique religieuse comme telle. Et qui ne sont pas plus, c'est vraiment l'éthique religieuse. Alors là, je crois que la miséricorde, on peut la mettre là, on peut le dire. On peut dire que c'est la miséricorde qui relève parce que le même Père. Et alors, on châtie bien comme le Père qui châtie. On peut avoir des exigences plus grandes en éthique religieuse qu'en éthique proprement humaine, parce qu'on s'aime pour le même but, avec la même exigence du même Père. Est-ce que vous avez vu d'autres vertus apparaître dans la perspective de l'éthique religieuse?
Moi, c'est pour revenir sur les autres religions, l'éthique religieuse.
Oui.
C'est intéressant quand même que la charité fraternelle sera toujours vue, par exemple, les commandements,
Oui.
Toujours vue dans une perspective de justice.
Oui.
Et par rapport à Dieu.
Oui. Comme étant tous des créatures du même Père. Oui. Tandis que dans la philanthropie, on s'aime parce qu'on a la même nature. Là, il y a un regard sur Dieu. Dieu fait luire son soleil sur les bons et les méchants.
Il y a toujours la justice qui sera présente.
Ah, la justice sera présente, sauf s'il y a l'amour d'amitié. L'amour d'amitié existe aussi en éthique religieuse. L'amour d'amitié relève d'un fruit plus grand que la justice. Vous voyez ? L'amour d'amitié est-elle modifiée ? Alors ça, c'est le problème. L'amour d'amitié est-elle modifiée en éthique religieuse comparativement à l'éthique proprement humaine? Je dis des notes particulières, c'est que le fondement, ce n'est plus la nature humaine comme telle qu'on aime, ce n'est plus la personne, c'est la personne en tant qu'elle est enfant de Dieu. Alors il y a une plus, alors c'est là il y a le dépassement de la justice. Je parlais de la miséricorde, vous voyez, mais l'amour d'amitié fait quelque chose de plus. Mais la miséricorde, c'est très vrai que la miséricorde, c'est le dépassement de la justice au nom de ce lien avec le Père. Et Dieu fait luire, quand une phrase comme celle-là, Dieu fait luire de son soleil sur les bons et les méchants, nous montre tout de suite le dépassement de la justice. Je ne peux pas avoir des rapports. Vous voyez, moi-même exercer une espèce de justice en faisant les bons et les méchants. Le dépassement de ça. Alors, ce serait très intéressant, peut-être, on tomberait dans un point de vue d'éthique politique, voir comment l'éthique stoïcienne, qui est une éthique religieuse, fait qu'il y a le dépassement par rapport aux Grecs et aux barbares. Et ce dépassement ne s'est pas fait au niveau d'une éthique purement humaine, mais se fait au niveau d'une éthique religieuse. Et ça, je crois. L'éthique religieuse qui permet de ne plus mettre cette opposition entre grec et barbare. Saint Paul reprendra entre grec et juif. Oui. Entre hommes qui sont d'attitudes différentes. Il y aura un dépassement dans une lumière de la paternité. Et c'est dans la lumière de la paternité qu'on pourra alors faire ce dépassement de la justice et avoir le point de vue de la miséricorde et avoir un amour de confiance mutuelle les uns par rapport aux autres. Et l'amour d'amitié pourra éclore également et même sera favorisé. Si on sait qu'on a même père, on a une confiance plus grande les uns envers les autres. Oui. Il me semble que ça joue sous ce point de vue-là. Mais l'amour d'amitié restera la même, ce sera les mêmes exigences. Le caractère spécifique de l'amour d'amitié n'est pas changé pour l'éthique religieuse, tandis qu'il est changé en éthique chrétienne. C'est tout.
Pour les autres vertus,
oui, c'est une autre vertu.
Parce que dans le prolongement de la tempérance, on peut voir la
vous avez posé la question de la de les vœux, ce qu'on appelle les vœux de religion. Alors, est-ce que la consécration à Dieu peut éclore en éthique religieuse, ou est-elle propre à l'éthique chrétienne? Il y a une donnée de fait. C'est qu'on voit à peu près dans toutes les traditions religieuses des consécrations religieuses. Je crois. Je vais vérifier que je crois. Au moins, si ça existe dans certaines, c'est suffisant. C'est pas nécessairement dans toutes. Mais c'est vrai qu'il y a une espèce d'exigence de consécration à Dieu dans l'éthique religieuse. Alors la tempérance reste une vertu de tempérance au niveau, alors va pouvoir atteindre un sommet proprement religieux dans une consécration totale à Dieu. L'esprit de virginité. L'esprit de virginité, c'est la consécration à Dieu. Alors, vous avez raison, mais c'est là où je me demandais s'il ne faut pas voir avant la contemplation. Je crois qu'au point de vue vertu, nous avons touché les vertus essentielles qui sont propres à l'attitude de l'éthique religieuse. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau dans l'éthique religieuse? C'est qu'il y a une nouvelle fin de la contemplation. Il n'y a pas de contemplation au niveau éthique humaine. Tandis qu'il y a une contemplation au niveau éthique religieux. Et c'est la contemplation qui va exiger la consécration. Je crois qu'il n'y aurait pas de consécration à Dieu, donc de consécration totale de l'individu à Dieu, dans une éthique religieuse, s'il n'y avait pas une nouvelle fin de la contemplation. Alors là, vous vous trouvez d'un point de vue politique, communautaire. Et je crois que la consécration religieuse, qui nous met au-delà du point de vue politique, ne peut être commandée que par quelque chose qui est au-delà. Saint Thomas le dit en théologien, alors c'est toujours la même chose, il faut se demander si cet argument est un argument qui joue en éthique religieuse. Quand Saint Thomas le dit explicitement, il dit explicitement que qu'est-ce qui justifie la consécration religieuse, c'est la contemplation. Il ne dit jamais que c'est les œuvres. Je ne peux pas dire, je me ferai religieux. Vous savez, la fameuse chose qu'on a dit pour certains, je suis religieux pour avoir les bras ouverts. Je suis religieux pour pouvoir avoir mes mains libres et puis pouvoir nous aider. C'est pas tout à fait juste. Si on se consacre à Dieu, c'est pour la contemplation. Autrement dit, l'activité caritative, comme on dit aujourd'hui, une activité caritative ne justifie pas la consécration totale. Ça va très loin, ça. Saint Thomas le dit, ça. Est-ce que chez les stoïciens, vous avez la chose? Oui, la pateia, mais la pateia, elle, c'est pas la contemplation, et ce n'est pas non plus la consécration. Les stoïciens, bon, je prends Épictète, je crois que c'est Épictète qui était le plus spirituel de tous les stoïciens, je crois. Quand vous regardez dans Épictète, vous ne voyez plus qu'une seule, qu'un seul chose, qu'un seul point, c'est le pouvoir se mettre en conformité plénière à la volonté du Père, à la volonté de Zeus, se mettre en conformité libre avec lui, et considérer que tout ce qui ne provient pas de nous, dont on n'est pas responsable, on ne s'en occupe pas, et on ne cherche qu'une seule chose,
c'est cette conformité profonde à la volonté du Père. C'est pas directement la contemplation. C'est en pratique. C'est en pratique.
Ah, la contemplation est morale, au-delà de la morale, mais c'est moral, mais dans le sens que c'est, ça fait partie de l'éthique religieuse, quoi. Je crois, c'est un très gros problème auquel il faut réfléchir, et je crois que c'est très important de comprendre que seul le contact personnel avec Dieu, avec le Dieu créateur, dans la contemplation, justifie la consécration virginale. Donc, justifie le dépassement à l'égard de la fécondité. Vous voyez, chez les musulmans, ils ont une peine énorme à comprendre ça. Ils ont une peine énorme, ils n'arrivent pas à justifier. Ils ne comprennent pas. Parce que la fécondité est exprimée avec une telle force comme un don de Dieu, de la toute-puissance de Dieu. C'est la toute-puissance qui est première. Alors, vous n'arrivez pas à justifier. Tandis que la contemplation du Dieu créateur, c'est au point de vue de la bonté de Dieu. C'est la bonté du Dieu créateur. Dieu me crée par amour et me crée dans sa sagesse. C'est la sagesse et la bonté. Dieu, lumière et amour. Et alors cette contemplation de Dieu peut arriver à exiger de nous un don total. Et finalement, ça qui donc permet une consécration qui va jusqu'à cette consécration qui nous met au-delà du point de vue du mariage. Je crois personnellement que c'est vraiment le propre d'une éthique religieuse d'aboutir à cette contemplation à partir de l'adoration. Il y a une certaine contemplation, qui est très très fragile, mais qui existe. Une contemplation religieuse du Dieu créateur, du Dieu Père. C'est grâce à la paternité qu'on peut contempler Dieu. C'est comme un appel à l'intérieur de l'adoration, progressivement. Et c'est ce point de vue-là qui permet de comprendre la consécration de Jésus.
On peut très bien concevoir une vie monastique comme en Jésus. C'est sûr.
Mais religieuse.
Mais religieuse. Qui va
être juste pour moi. Religieuse, tout à fait. Elle existe, tu vois. On existe encore dans la vie monastique. La vie monastique au sens propre n'est pas spécifiquement chrétien, au sens propre.
Pas spécifiquement chrétien. C'est ce que nous essayons, vous voyez. C'est l'intérêt de cette enquête que nous faisons, c'est d'essayer de voir qu'est-ce qu'il y a de spécifiquement chrétien. Parce que tout est tellement mêlé, étant donné que la philosophie classique qu'on donne est une philosophie qui provient d'une théologie chrétienne. Alors, on ne sait plus. Alors, je crois que c'est dans notre monde d'aujourd'hui, c'est très important de préciser ces niveaux. Qu'est-ce qui est exigé? Qu'est-ce qui est propre à l'éthique religieuse? Qu'est-ce qui est propre à l'éthique humaine? Qu'est-ce qui est propre à l'éthique chrétienne? Je ne crois pas.
Par exemple, quelqu'un qui donne sa vie à la science, par exemple.
Je crois que c'est toujours oui. L'éthique ne peut pas poser sur un idéal. Alors, au fond, c'est un aspect esthétique, artistique, l'épicurisme. Il y a des épicuristes, il peut y avoir un épicurisme à l'intérieur de cette recherche de la science. Je crois que c'est.
Au niveau alors de la charité.
Oui, oui, je vois une espèce d'idéal au niveau de la charité.
L'idéal, c'est à ce niveau-là, parce qu'il n'y a pas moyen.
On se pose la question. On se pose la question, y a-t-il, vous voyez, on aurait une éthique des valeurs, alors qui repose sur l'idéal. Moi, je dirais, dans une éthique des valeurs, on mettrait ça.
Une éthique des valeurs demande d'être purifiée, une éthique de la bonté, de l'amour. Parce qu'au fond, le réalisme éthique, le réalisme pratique,
ne peut se fonder que sur la bonté. Puisque seule la bonté finalise. Un idéal au sens propre ne finalise pas. Un idéal vient donner une modalité particulière d'agir. Il ne finalise pas. Alors, si je finalise ma vie sur un idéal, je me casse la tête. Et donc, je n'ai pas le droit, au point de vue éthique, de dire « Ah, voilà, vous pouvez orienter votre vie là-dessus. » C'est une question constante. Hein. Un artiste, ça m'a été posé plusieurs fois cette question, un artiste a-t-il, quelqu'un qui a des dons très extraordinaires au point de vue, a-t-il le droit de dire, eh bien, je ne marie pas parce que je ne suis pas au début, et puis après, on sera plus libre, je veux faire ma carrière artistique. Est-ce qu'une carrière artistique justifie de ne pas se marier? Est-ce qu'une carrière caritative justifie de ne pas se marier? C'est la question constante qu'on trouvera posée dans beaucoup d'infirmières ou d'assistantes sociales. Je me souviens de la première prédication que j'ai faite d'infirmières ou d'assistantes sociales. Tout de suite, la question venait. Est-ce que c'est une vocation qui finalise une vie? Voilà, il fallait y aller avec beaucoup de... Parce que quand vous dites brutalement aux gens, il y a deux vocations possibles, ou le don total à Dieu, ou le mariage, à tous ceux qui ont la peine de se marier, et qui ont encore une beaucoup plus grande peine de se donner à Dieu, là c'est pas commun. On est entre deux chaises, un fauteuil d'un côté et une chaise de l'autre. Enfin, un strapontin. Le strapontin est bien plus chose. Tandis que le fauteuil marié, on peut plus s'embourrer. Tandis de l'autre côté, c'est vraiment le strapontin. Alors, de dire vraiment avec netteté, et je crois qu'on doit pouvoir comprendre qu'une vie humaine est finalisée toujours par un bien et pas une valeur. Et je comprends, ça c'est. Alors c'est. Vous voyez, ce serait très intéressant à voir parce que ce serait l'épicurisme qui s'introduirait dans une éthique. Toute éthique a son épicurisme. Quand Maritain essaie d'assumer dans son éthique le point de vue des valeurs, là ça c'est l'épicurisme de Maritain. Alors, les valeurs, c'est du côté du bien. Alors, il y a la valeur vérité, il y a la valeur bonté, il y a la valeur libéralité, il y a la valeur manière de générosité, enfin, toutes les valeurs, quoi. Ben, toutes les valeurs reposent sur un idéal et ne reposent pas sur un bien. Le bien suscite un amour. Et seul le bien peut vraiment donner le point de vue du bonheur. Alors, je crois, vous voyez, une éthique épicurienne, ce type-là, avec la noblesse que ça représente, c'est quelque chose de très grand. Ça peut représenter que. Et c'est un mode esthétique. Il y a un petit mode esthétique. Et le petit mode esthétique empêche l'amour d'aller jusqu'au bout de ses exigences. Alors, ce petit mode esthétique ralentit et fait la confusion entre le bout et le bout. Kalos. Toujours la même chose. On voudrait que le bien et le beau s'identifient. Et alors, si on découvre le beau, on va découvrir le bien. Ah non. Non. Le beau n'est pas le bien. Et une éthique se finalise par le bien. Et le bien, c'est toujours une personne. C'est pas un idéal. Mais ça s'introduit même dans la vie religieuse. C'est évident, la vie religieuse, ça s'introduit beaucoup. On a un idéal de vie religieuse quand on est jeune. On a un idéal de vie religieuse quand on est jeune. Puis on s'aperçoit que l'idéal, ça ne tient pas, l'idéal. Ça ne peut pas tenir. Parce que chacun, on a un idéal. Chacun, on a un projet de vie religieuse, un idéal de vie religieuse. Et à ce moment-là, on n'a qu'à voir le béguinage. Chacun a son idéal. dès qu'on est dans le point de vue de la vie commune, n'est-ce pas ? Dès qu'on est dans le point de vue du bien, c'est tout à fait différent. C'est rude l'éthique, hein, c'est très rude, parce que c'est une purification de tout ce qui est en nous, d'esthétisant. Vous voyez, la beauté, ce mode de beauté, on voudrait tout le temps que ça nous accompagne. Que ça puisse exister, je suis tout à fait d'accord, mais ça ne donne pas une nouvelle éthique. Mais qu'une manière esthétisante de chercher le bien de l'amitié, de chercher le bien de la contemplation, ah, très juste. Il ne faut pas que ça aille trop loin. Parce qu'il ne faut pas que le mode esthétique fasse obstacle à ce qu'on représente le bien. Alors à ce moment-là, ce serait l'idéal qui l'emporterait sur le bien. Et donc, on se mettrait dans des orientations qui risqueraient d'être fausses pistes. S'orienter vers le beau, c'est une fausse piste. Je ne peux pas finaliser ma vie par le beau. Parce que le beau est un idéal que je porte en moi. Finalise ma vie par le bien qui est une personne humaine, l'amitié ou la contemplation. Évidemment, c'était. Alors, voyons si vous voulez, parce que c'est important, voyons ce que représente cette contemplation religieuse, de l'éthique religieuse, qui est au fond une contemplation philosophique. C'est la seule contemplation philosophique qui existe. Il n'y en a pas deux, il n'y a qu'une seule contemplation philosophique. C'est la contemplation du Dieu créateur. Du Dieu créateur dans sa sagesse et dans sa beauté. Et celle-là existe. Heureusement qu'on a des témoignages écrits. Des témoignages écrits d'Aristote, parce que je ne parle pas de la contemplation de Platon, où justement l'idéal et le bien sont intimement liés. Et comme il y a chez Platon quand même une orientation très forte vers la bonté, on peut dire que sa contemplation demeure quand même avec le réalisme de la beauté. Mais le mode beauté, quand on a besoin de vanter, la beauté joue un rôle très très important. Et je ne savais pas très bien si vous pouvez vraiment isoler ou séparer ou distinguer les deux, tellement c'est lié. Tandis que chez Aristote, alors c'est très net. C'est la beauté qui m'anime, c'est la beauté qui est fin. Et cette beauté qui est fin, en dernier lieu, je l'atteins par la contemplation. Et donc la vraie finalité humaine, la vraie finalité de l'homme, c'est la contemplation. Contemplation religieuse. On dit toujours contemplation philosophique, on comprend, mais il faut dire contemplation religieuse et philosophique. C'est une contemplation qui prend, qui saisit tout l'être humain en vue d'aboutir à cette contemplation. Alors, regardons un peu ce que peut être cette contemplation. Elle implique donc un habitus de sagesse, un habitus acquis de sagesse. Ça, c'est donc une vertu tout à fait propre à l'éthique religieuse. L'éthique religieuse peut atteindre un habitus acquis de sagesse. C'est très extraordinaire. Tandis que l'éthique purement humaine aboutit à une prudence, et ici à la Sophia. On aboutit à la Sophia, donc, dans une éthique religieuse. C'est la Sophia qui dépasse l'habitus de sagesse. Et l'habitus de sagesse est contemplatif. La sagesse est contemplative. Je ne l'ai pas. La prudence n'est pas contemplative, mais la sagesse est contemplative. Alors, cette contemplation acquise, qui met du temps, pour Aristote, c'est quand on arrive à une certaine maturité intellectuelle, on peut arriver à la contemplation de 45 ans ou 50 ans, l'âge politique, quand on a opté pour une sagesse contemplative. Alors, on arrive à une certaine contemplation philosophique. Et c'est là où on voit très bien que l'éthique chrétienne fait que même les enfants contemplent. C'est ça qui est le plus extraordinaire quand le Seigneur dit « Je te rends grâce de ne pas avoir rendu ses vœux aux prudents. » C'est donc les enfants qui veulent contempler. Et la petite Thérèse. les enfants qui vont au noviciat. Ils n'ont pas encore 45 ans, mais ils contemplent. Et au fond, c'est très curieux, ça reste toujours un peu comme ça. Vous voyez, les gens disent, mais non, il est beaucoup trop jeune pour entrer. Mais non, les enfants contemplent. C'est que... Alors qu'on voit toujours un peu le raisonnement grec en disant, mais non, il faut arriver à un certain âge après de mauvaises expériences. Alors à ce moment-là, très bien, ils peuvent opter. Mais non, l'option se fait bien plus. Parce que le christianisme et la foi et l'espérance et l'amour mûrissent l'être humain beaucoup plus vite. Parce que c'est quelque chose de divin. Mais regardons cette contemplation alors. Je crois qu'il faut toujours, si on veut vraiment comprendre ce que c'est cette contemplation, ne pas oublier qu'il y a une certaine contemplation esthétique. Il y a une contemplation esthétique. La contemplation qu'on pourrait dire, hein, qui existe dans une attitude comme Platon, c'est une contemplation esthétique. Toute la sagesse d'Épicure, Épicure parle de la contemplation, il y a une contemplation esthétique, il y a une contemplation philosophique. Je ne dirais pas qu'il y a une sagesse esthétique. Ici, il y a une sagesse. Première sagesse, contemplation philosophique. Contemplation acquise, théologique. Puis contemplation infuse. Sagesse mystique. Les trois sagesses, on commence à le savoir. Les trois sagesses qui sont les trois habitus contemplatifs à trois niveaux différents. Mais il y a une première sagesse, il y a une première contemplation esthétique. Alors, pouvons-nous distinguer le caractère propre de ces différentes contemplations? C'est important, ça. Il faut toujours les comparer et saisir ce qui spécifie chacune de ces contemplations. Quel est le caractère spécifique de chacune de ces contemplations? Qu'est-ce qui spécifie la contemplation esthétique? Je crois que c'est une forme. Ce n'est pas une personne, c'est une forme. C'est la splendeur de la forme. Vous êtes illuminé par la splendeur de la forme. Splendor forme. Splendeur formé, qui pour saint Thomas est la beauté. C'est le beau. La contemplation esthétique contemple le beau. Pas la beauté, le beau. Parce que la beauté, c'est abstrait, trop idéal. Le beau, c'est-à-dire une forme parfaite. Une forme parfaite. Dans les différents domaines, une forme parfaite dans le domaine de ce qui est la lumière, on peut contempler une très belle lumière. C'est vrai, on contemple une très belle lumière. La contemplation esthétique a ceci de particulier, c'est qu'elle est immédiatement dans le prolongement de l'expérience esthétique. C'est pour ça que tous ceux qui ont un peu le sens esthétique arrivent à voir le sens de la contemplation esthétique. C'est dans le prolongement. C'est l'expérience esthétique qui dure et qui s'amène à la contemplation. Donc, c'est les qualités sensibles qui sont vues pour elles-mêmes et dans toute leur force. Comment les qualités sensibles peuvent émerger du monde physique, du monde quantitatif. Alors, forcément, dans toute contemplation esthétique, il y a un aspect idéal. Alors comprenez bien, quand je dis un aspect idéal, c'est justement que pour qu'il y ait la splendeur de la forme, il faut que la forme soit un peu séparée de ce que représente la quantité, le conditionnement quantitatif. D'habitude, quand la forme est trop conditionnée par le conditionnement, elle n'a pas cette splendeur. Elle est trop, je dirais, implantée dans la matière et le conditionnement. Alors elle n'a pas cette splendeur. Pour pouvoir être saisie dans un regard contemplatif, il faut qu'elle soit un peu séparée. Et c'est en ce sens-là qu'elle est un peu idéalisée. Je crois que dans toute contemplation esthétique, il y a un halo qui idéalise la forme, la splendeur. Pour en faire la splendeur, la forme est idéalisée pour qu'elle devienne splendide, pour qu'elle puisse rayonner, pour qu'elle puisse s'épanouir. Il y a une espèce d'épiphanie de la forme. La forme se manifeste, la forme se montre, la forme est, c'est, elle est victorieuse à la matière, c'est ce que Plotin dit. Et je crois qu'il a tout à fait raison. C'est la victoire de la forme sur la matière qui donne cette splendeur, qui lui permet d'avoir ce rayonnement. Eh bien, la contemplation atteint cette forme, la contemplation esthétique. Elle atteint ce rayonnement, cette splendeur de la forme, qui est donnée dans les différents domaines où il y a les qualités sensibles, pour fixer notre regard. Dans toute contemplation, il y a notre regard qui est fixé. On est arrêté. C'est la différence avec l'expérience. Dans l'expérience esthétique, on est encore libre. Dans la contemplation esthétique, on s'arrête. Il y a un arrêt d'une intelligence liée au sensible qui se fixe, qui s'arrête à la splendeur de la forme. Mais c'est dans la continuité. Il n'y a pas quelque chose de nouveau saisi. Il y a simplement une profondeur plus grande, donc un arrêt, quelque chose qui permet d'aller plus loin. Dans la contemplation philosophique, dans la contemplation religieuse, toute contemplation philosophique religieuse implique l'adoration. C'est très important de se rappeler. Donc, implique une attitude affective. L'adoration est une attitude affective vis-à-vis de l'être absolu. On ne peut pas contempler philosophiquement sans l'adoration. L'adoration fait qu'on reconnaît la dépendance radicale, profonde de nous-mêmes à l'égard de Dieu, et c'est à partir de là qu'il y a une soif de contemplation et un désir de contemplation. La contemplation philosophique est trop fragile pour ne pas s'enraciner dans l'adoration. C'est la différence avec l'adoration mystique. L'adoration mystique vient d'en haut. Alors, il peut y avoir un rapt qui vient d'en haut. Tandis qu'au contraire, l'adoration, la contemplation philosophique, vient du philosophe. Elle monte vers le haut. Oui.
On peut parler de contemplation, d'adoration chez Aristote. Sauf qu'il n'a pas vraiment.
On peut. On peut. Parce qu'il n'en a pas beaucoup parlé. Mais il en parle quand même en politique. Le culte. Oui. Alors, il n'a pas parlé de ça, mais peut-être qu'il est sur Dieu. Aristote ne pouvait formellement, étant donné sa méthode, étant donné sa précision philosophique, Aristote ne pouvait parler d'adoration qu'ayant parlé de la création. Donc, il n'en a pas parlé. Mais voyez, quelqu'un comme Plotin, je veux dire quelqu'un comme Proclus, n'hésite pas de dire que la création, Aristote l'a découvert. C'est pas simplement, on dit toujours, Gilson dit tout le temps, c'est simplement, c'est Proclus. C'est d'autant plus intéressant que c'est un philosophe. Il y a un philosophe néoplatonicien. Et il dit que Aristote a découvert la création, c'est impossible autrement. Mais il ne développe pas. Mais autrement dit, les principes d'Aristote conduisent nécessairement à la création. Il dit ça dans son traité sur le commentaire dans le monde d'Étienne, sur l'Ultime.
Est-ce qu'il y a une contemplation mathématique ?
Il y a un arrêt. Vous voyez quand. Non, ça c'est l'autorité. Quand Aristote dit que les mathématiques sont fidélisées. voyez donc une contemplation, une modalité de la contemplation esthétique en mathématiques. Et peut-être ce qu'il y a de plus pur dans la contemplation esthétique. Alors ça, je suis assez d'accord. Ce qu'il y a de plus pur dans la contemplation esthétique, elle est mathématique.
Oui. Est-ce que c'est pas ça qui fait comprendre le lien chez les Grecs entre le beau et le bon? Oui. C'est qu'il y a une certaine vérité dans la mathématique,
oui, qui est
indissociable de la beauté.
Dans les mathématiques, je crois qu'en effet,
il y a un lien
le cas de ce que vous avez
ça, c'est valable pour la création.
Qu'est-ce qu'il y a?
C'est valable pour la création.
Saint-Augustin dit la première création valent tout comme nous. Et c'est le démon qui dit comme c'est beau. Vous voyez, l'intention dit, regarde l'esprit sacrifice.
Qu'est-ce qu'il y a? Sur la création. Et qui ne fait pas le dépassement.
Non, mais la première création est avant tout finalisée par la bonté, alors que la recréation est finalisée par la beauté. Alors là, d'accord. Alors si je regarde création et recréation, donc la résurrection des corps est finalisée par la beauté. Et la création première, va le premier.
C'est-à-dire, non, mais à partir de que c'est bien le texte de la sagesse, du sémantique, je ne sais rien, à partir de la beauté des créations, des créatures, ils n'ont pas découvert la beauté.
Il ne dit pas la beauté, il dit l'ordre.
Mais ils se sont perdus tellement ils trouvaient les choses mêmes.
Oui. Oui, la beauté. Là, ils ne sont pas arrêtés, cette beauté. Oui. Justement, donc, ce qui montre la différence, on ne peut jamais dire qu'on dit la beauté. La bonté de la créature conduit à Dieu. La beauté de la créature peut être un obstacle. Donc, il y a une différence, un hiatus entre beau et beau. Tandis qu'en mathématiques, il n'y en a pas. Je vais vous serrer. Vous êtes bénis entre toutes les femmes, et Jésus, le